Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire une solitude qui rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas ? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.
Bonjour et bienvenue dans Encore Heureux. William Somerset Maugham est un écrivain britannique né à Paris en 1874. Somerset Maugham, ce nom qu'on écorcherait volontiers en français par Somerset Maugham. Mais non, il faut bien prononcer ainsi, Maugham. L'écrivain passe une partie de son enfance en France. Il grandit au cœur de Paris, dans un monde de bourgeois fortunés et cosmopolites. Mais sa mère meurt à 35 ans de la tuberculose et son père décède 2 ans après d'un cancer. Orphelin à 8 ans, Somerset Maugham est recueilli par un oncle dans le sud de l'Angleterre. Il suit des études de médecine, puis se tourne vers l'écriture. Bien lui en a pris, car il va écrire plus de 20 romans, des pièces de théâtre à succès et surtout près de 120 nouvelles, ce qui lui vaudra le surnom de Maupassant anglais. Parallèlement à l'écriture, il voyage, beaucoup, mène une vie aventureuse, il sera même espion. Bisexuel, sa vie personnelle est parfois comparée à celle d'Oscar Wilde. En 1946, il s'installe au Cap Ferrat dans une somptueuse villa où il reçoit tous les grands de sa génération. Il y meurt en 65. Voici l'une de ses 120 nouvelles intitulée « Le rêve ».
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez « Encore heureux ». Il se trouva qu'en août 1917, le travail dans lequel j'étais alors engagée m'obligea à quitter New York pour Petrograd. Et pour des raisons de sécurité, on me recommanda de passer par Vladivostok. J'y débarquais le matin et passais du mieux que je pus une journée d'oisiveté. Le transsibérien devait partir, autant qu'il m'en souvienne, vers 9 heures du soir. Je dînais seul au buffet de la gare. Il était bondé. Et je partageais une petite table avec un homme dont l'apparence m'amusa. C'était un Russe, un grand diable, mais d'une corpulence étonnante. Il avait une panse si énorme qu'il était obligé de s'asseoir assez loin de la table. Ses mains, petite pour sa taille, était enfouie dans des plis de graisse. Ses cheveux noirs, longs et clairsemés, étaient ramenés avec soin à la brosse sur le sommet de son crâne pour cacher sa calvitie, et son visage, massif et jaunâtre, à l'énorme et glabre double menton, donnait l'impression d'une indécente nudité. Son nez était minuscule, drôle de petits boutons sur cette masse de chair, et ses yeux noirs et brillants étaient petits, eux aussi. Mais il avait une grande bouche, rouge et sensuelle. Il était vêtu avec assez de soin d'un costume noir. Celui-ci n'était pas usé, mais en piteux état. On aurait dit qu'il n'avait jamais été repassé ni brossé depuis qu'il le possédait. Le service était lent, et il était presque impossible d'attirer l'attention d'un serveur. Nous engageâmes bientôt la conversation. Le Russe parlait couramment un anglais correct. Son accent était marqué sans être lassant. Il me posa de nombreuses questions sur moi-même et sur mes projets, auxquelles je répondis avec une franchise apparente, mais en fait avec dissimulation, mes occupations du moment rendant la prudence nécessaire. Je lui dis que j'étais journaliste. Il me demanda si j'écrivais des romans, et lorsque je lui avouais que cela m'arrivait à mes moments perdus, il commença à parler des romanciers russes récents. Il s'exprimait avec intelligence. Il était évident qu'il s'agissait d'un homme cultivé. Entre-temps, il avait persuadé le serveur de nous apporter de la soupe aux choux, et ma nouvelle connaissance tira de sa poche une petite bouteille de vodka qu'il m'invita à partager. Je ne sais si c'est la vodka ou la loquacité naturelle de sa race qui le rendit communicatif, mais il se mit aussitôt, sans que je l'en aie prié, à me raconter beaucoup de choses sur lui-même. De noble naissance, semblait-il, il était avocat de profession et d'opinion très avancée. Des difficultés avec les autorités l'avaient obligé à beaucoup vivre à l'étranger, mais à ce moment-là, il retournait dans son pays. Les affaires l'avaient retenu à Vladivostok, mais il comptait partir pour Moscou dans une semaine, et si j'y allais, il serait ravi de me voir. « Êtes-vous marié ?» me demanda-t-il. Je ne voyais pas en quoi cela le regardait, mais je lui dis que oui. Il eut un petit soupir. « Je suis veuf, » dit-il. Ma femme était suissesse, native de Genève. C'était une femme très cultivée. Elle parlait l'anglais, l'allemand, l'italien à la perfection. Le français, bien sûr, était sa langue maternelle. Son russe était très au-dessus de la moyenne pour un étranger. C'est à peine si elle avait une pointe d'accent. Il appela un serveur qui passait avec un plateau chargé de plats, et lui demanda, du moins je le suppose, car à cette époque je connaissais à peine le russe, si nous allions encore attendre longtemps la suite. Le serveur, avec une exclamation brève, mais probablement rassurante, s'éloigna rapidement et mon ami soupira. Depuis la Révolution, le service dans les restaurants est devenu abominable. Il alluma sa 20e cigarette, et je me demandais, en regardant ma montre, si j'arriverais à faire un repas substantiel avant l'heure de mon départ. Mon épouse était une femme remarquable, continua-t-il. Elle enseignait les langues dans une des meilleures écoles pour les filles de la noblesse à Petrograd. Pendant un bon nombre d'années, nous avons vécu en parfaite intelligence. Elle était cependant d'un tempérament jaloux, et malheureusement, elle m'aimait à la folie. Bon, j'avais du mal à garder mon sérieux. C'était un des hommes les plus laids que j'ai jamais vus. Il y a parfois un certain charme chez un gros homme rubicond et jovial, mais cette morne obésité était repoussante. Oh, je ne prétends pas que je lui étais fidèle. Elle n'était pas jeune quand je l'ai épousée et nous étions mariés depuis 10 ans. Elle était petite et maigre et avait un vilain teint. Elle avait une langue de vipère. C'était une femme atteinte de furie possessive. Et elle ne pouvait supporter de me voir attirée par quelqu'un d'autre. Elle était jalouse, non seulement des femmes que je connaissais, mais aussi de mes amis, de mon chat, de mes livres. Une fois, en mon absence, elle donna un de mes manteaux, simplement parce que c'était celui que je préférais. Moi, mais je suis d'humeur égale. Je ne nierai pas qu'elle m'ennuyait, mais j'acceptais son humeur acariâtre comme un fléau naturel. Et je ne pensais pas plus à me rebeller contre cela que je ne me serais rebellé contre le mauvais temps ou un rhume de cerveau. Je repoussais ces accusations aussi longtemps qu'il était possible de les repousser, et quand cela devenait impossible, je haussais les épaules et je fumais une cigarette. Les scènes répétées qu'elle me faisait ne m'affectaient guère. Parfois, je me demandais vraiment si c'était un amour passionné qu'elle éprouvait pour moi ou une haine passionnée. Il me semblait que l'amour et la haine étaient des sentiments très voisins. Nous aurions pu continuer ainsi jusqu'à la fin des fins. Si une nuit, une chose très curieuse m'était arrivée. Je fus réveillée par un cri perçant de ma femme. Alarmée, je lui demandai ce qui se passait. Elle me dit qu'elle avait eu un cauchemar affreux. Elle avait rêvé que j'essayais de la tuer. Nous habitions en haut d'une grande maison et la cage de l'escalier était très large. Elle avait rêvé qu'au moment précis où nous arrivions à notre étage, je l'avais empoignée et j'avais essayé de la jeter par-dessus la rampe. Il y avait 6 étages pour atteindre le sol d'allée du rez-de-chaussée. C'était une mort certaine.
Encore heureux, portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B.
Elle était bouleversée. Je fis de mon mieux pour la calmer. Mais le lendemain matin et les 2 ou 3 jours suivants, elle fit de nouveau allusion à ce sujet et en dépit de mes éclats de rire, je vis que la chose restait présente à son esprit. Je ne pouvais m'empêcher d'y penser, moi aussi, car ce rêve me montrait quelque chose que je n'avais jamais soupçonné. Elle pensait que je la haïssais. Elle pensait que je ne demandais qu'à me débarrasser d'elle. Elle savait bien sûr qu'elle était insupportable. Et à un moment ou à un autre, l'idée lui était venue, évidemment, que j'étais capable de l'assassiner. Les pensées des hommes sont imprévisibles, et ils nous passent par la tête des idées que nous aurions honte de confesser. J'ai souhaité parfois qu'elle partît avec un amant, parfois qu'une mort indolore et soudaine pût me rendre ma liberté. Mais jamais, au grand jamais, l'idée ne m'était venue que je pourrais me débarrasser délibérément d'un fardeau intolérable. Ce rêve fit sur nous deux une extraordinaire impression. Il fit peur à ma femme, et elle devint pendant quelque temps moins acerbe et plus tolérante. Mais quand je montais l'escalier qui menait à notre appartement, il m'était impossible de ne pas regarder par-dessus la rampe et de me dire combien il serait facile de faire ce qu'elle avait rêvé. La rampe était basse, au point d'être dangereuse. Un geste vif et la chose était faite. Il était difficile de chasser cette pensée de mon esprit. Puis quelques mois plus tard, ma femme me réveilla une nuit. J'étais très fatiguée et cela m'exaspéra. Elle était pâle et tremblante. Elle avait refait le même rêve. Elle éclata en pleurs et me demanda si je la haïssais. Je lui jurai par tous les saints du calendrier russe que je l'aimais. Enfin, elle se rendormit. Je ne pus en faire autant. Je restais éveillée. Il me semblait la voir tomber dans la cage d'escalier et j'entendais son hurlement et le bruit mat de sa chute comme son corps s'écrasait sur le sol dallé. Je ne pouvais m'empêcher de frissonner. Le russe s'interrompit et des gouttes de sueur perlèrent sur son front. Il m'avait raconté son histoire avec talent, de sorte que j'avais écouté avec attention. Il restait un peu de vodka dans la bouteille. Il se la versa et l'avala d'un trait. « Et comment est morte votre femme, finalement ?» lui demandai-je après une pause. Il sortit un mouchoir sale et s'épongea le front. Par une coïncidence extraordinaire, on la trouva un soir à une heure avancée de la nuit au pied de l'escalier, le cou brisé. Qui la trouva ? Un des locataires qui rentra peu après la catastrophe. Et vous ? Où étiez-vous ? Je ne puis décrire le regard rusé et plein de malicieuse méchanceté qu'il me lança. Ses petits yeux noirs étincelèrent. Je passai la soirée chez un de mes amis. Je ne suis rentrée qu'une heure plus tard. À ce moment-là, le garçon nous apporta le plat de viande que nous avions commandé et le russe se jeta dessus avec appétit. Il enfournait la nourriture en énormes bouchées. J'étais déconcertée. M'avait-il vraiment raconté, en ces termes à peine voilés, qu'il avait assassiné sa femme ? Cet homme obèse et indolent n'avait pas l'air d'un assassin. Je ne pouvais croire qu'il aurait eu ce courage. Ou bien se livrait-il à une farce sardonique, à mes dépens ? Quelques minutes plus tard, il était l'heure pour moi d'aller prendre mon train. Je le quittais et je ne l'ai jamais revu. Était-il sérieux ou plaisantait-il ? Je n'ai jamais pu trancher la question.
Encore heureux, encore heureux. Portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B.
Chers auditeurs, merci. Somerset Maugham était un homme caustique et désillusionné. Toute sa vie, il a cherché un sens à l'existence. Il faut lire son chef-d'œuvre « Servitude humaine » paru en 1915, d'inspiration largement autobiographique. Caustique, donc, cynique et volontiers misogyne. Aïe, aïe, aïe. Mais non dénué de tendresse. En tout cas pour sa mère, dont il a gardé toute sa vie le portrait dans sa chambre. Pour le reste, il disait « Seul l'amour et l'art rendent l'existence tolérable. J'ajouterai modestement le pâté croûte avec beaucoup de mayonnaise. Et Radio B, bien sûr. Encore heureux.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire une solitude qui rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort. Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.